Sajo et ses castors par Gray Hall, 7e cassette, première face, page 216. Sajo se précipita dans l'enclos et tombant à genoux, prit dans ses bras son Chicani perdu depuis si longtemps. Tous deux restèrent un moment immobiles. Le châle multicolore cachait tout, et ni vous, ni moi, ni personne ne saura jamais ce qui se passa entre les deux amis en cette minute glorieuse et inoubliable. Le vieux monsieur Henderson sortit son mouchoir de sa poche et se moucha bruyamment, tandis qu'Alec le gardien était pris subitement d'une petite toux. « fit-il. Et moi de même !» s'exclama Pat le policeman d'une voix de stentor, bien qu'en réalité le gardien n'eût rien dit du tout. On était arrivé maintenant au moment palpitant entre tous où Chilaoui et Chicani allaient se retrouver. Ils n'étaient qu'à 3 mètres l'un de l'autre et ne s'en doutaient pas. Quel instant émouvant! C'est le cœur battant que Sajo et Chapian transportèrent le panier dans l'enclos. Un seul n'y serait point parvenu et ils durent se mettre à deux pour retirer le couvercle, tant était grande leur émotion. Ils sortirent Chilaoui du panier et le posèrent par terre en face de Chicani, en laissant entre eux une petite distance, puis, retenant leur souffle, demeurèrent en observation. Pendant 1 ou 2 secondes, les deux castors restèrent immobiles à se regarder. Alors, la vérité commençant à se faire jour dans leurs petites cervelles embrumées, ils marchèrent lentement l'un vers l'autre, les yeux leur sortant presque de la tête, les oreilles grandes ouvertes, le flair en éveil. Puis, cette allure rampante s'accéléra, devint un petit trot lourd, et maintenant, tous deux étant sûrs de s'être enfin retrouvés, le trot se changea soudain en un galop, et c'est dans une charge impétueuse que la rencontre s'opéra. Si violente fut la collision, que les deux castors, arrêtés dans leur élan, se dressèrent debout l'un contre l'autre et avec des cris aigus s'étreignirent étroitement. Puis, en face de tous ces gens qui les regardaient, ils se mirent à lutter. Les longues recherches inutiles, les déceptions quotidiennes, le chagrin et les regrets, les mornes nuits de solitude, tout cela était fini. Gros petits et tout petits étaient de nouveau réunis. Avant qu'il fût longtemps, tous deux s'ébattaient d'un bout à l'autre de l'enclos et la vilaine prison sévère se voyait transformée en salle de jeu. Transformation tout à son avantage, je vous le garantis. Les enfants enthousiasmés battaient des mains, criaient, poussaient des hurrahs, tandis que les lutteurs ou les danseurs, comme il vous plaira de les appeler, continuaient à évoluer, jouissant pleinement de ce qui était sans doute le plus beau moment de leur vie. Jamais jusque-là ils n'avaient donné si brillantes représentations, et les gens riaient et applaudissaient. Le vieux monsieur Henderson agitait frénétiquement son mouchoir, et je n'assurerai pas qu'il ne criait pas un peu lui aussi. Monsieur O'Reilly, brûlant de jouer un rôle actif dans cette scène joyeuse qui était un peu son œuvre, et très fier d'être la seule personne présente au courant de toute l'histoire, s'improvisa maître des cérémonies. Tout en maintenant la foule comme c'était son devoir d'agent de police, il expliquait ce qui se passait, lançait des plaisanteries, promenait des regards rayonnant autour de lui et s'amusait royalement. Nous conviendrons tous, je pense, qu'il avait bien mérité son petit succès, même s'il prétendait en savoir un peu plus long qu'il n'en savait réellement. Quand les deux petites bêtes commencèrent leur singulière danse, il observa sans se déconcerter que c'était la première fois de sa vie qu'il voyait d'autres danseurs que ceux de son pays exécuter une bonne gigue irlandaise. Et il termina en déclarant à haute voix pour l'édification de tous « Je vois tout cela de mes yeux, mais saperlipopette, je ne peux pas y croire !» Sans doute fut-il aisément compris, car quiconque n'avait jamais assisté à pareil spectacle devait trouver la scène des plus extraordinaires. Alors s'avança un nouveau personnage qui avait observé la scène de loin pour ne pas la troubler. Un homme grand et brun, chaussé de mocassins, celui-là même qui, un instant auparavant, arpentait les rues de la ville d'un pas si rapide en se dirigeant vers le parc. À sa vue, le silence se fit dans la foule surprise. mais Sajo et Chapian, absorbés par leurs petits amis, ne s'aperçurent de son arrivée qu'au moment où ils entendirent une voix familière prononcée derrière eux dans la langue douce et musicale des Ojibwés. « Oh ouais, les nuages ont cessé de voiler la face du soleil. Ma peine aussi s'est envolée, mêlée aux brumes de l'aube. Ces gens se sont montrés bons, très bons pour nous, mes enfants. Il nous faut maintenant les remercier. Mon fils, ma fille, prenez vos Nichi Kiwins, vos petits frères. Opipisowe nous attend. » C'était Longue Plume qui était venu les chercher tous les quatre pour les ramener au pays de l'eau qui parle, à la terre du vent du nord-ouest. Pour finir, le rêve de Sajo s'était réalisé. Chapitre 16. Minotakia. Ils dirent donc adieu à la grande ville bruyante et agitée ainsi qu'à ses habitants, qui, trouvait Sajo, ressemblait beaucoup aux autres gens. Il y en avait plus de bons que de méchants. En fait, presque tous étaient bons, et Sajo se promit de le dire aux Indiens de son pays. Ils dirent au revoir à Alec le gardien, qui s'était montré si gentil pour le pauvre Chicani et semblait tout soulagé de voir rendre la liberté à son petit prisonnier. Ils prirent aussi congé de l'original et flegmatique Monsieur Henderson, que la pensée d'avoir donné de la joie à des cœurs affligés rendit longtemps heureux. Longue Plume avait bien essayé de lui rembourser le prix de Chicani, mais le vieux monsieur n'avait pas voulu en entendre parler, disant qu'il était largement payé par le plaisir qu'il éprouvait à leur rendre le petit castor. Le robuste descendant des oreillers, Patrick le policeman, les accompagna jusqu'à la gare. « Oui, mes amis, » raconta-t-il ensuite à ses collègues, « je les ai vus repartir sains et saufs de mes propres mains. Et quand le papa m'a entendu parler son langage à ses petits, je vous assure qu'il a souri jusqu'aux oreilles. » Ce qui était assez vraisemblable, en effet. Quand le train partit, les enfants agitèrent longtemps la main pour dire adieu à cet ami qui leur avait témoigné tant de généreuse bonté. Pat, de son côté, tenait son casque en l'air comme pour un signal. Pendant un instant encore, les enfants virent luire au soleil son crâne chauve et Chapian s'en alla, persuadé que dans une île verte située au milieu d'un grand lac salé, habitait toute une tribu de blancs qui s'était donné le nom de Castor. La première personne qui elvirent à Rabbit Portage fut Cheveux Jaunes, qui sauta sur le bateau avant même qu'il eût tout à fait abordé pour leur souhaiter la bienvenue. Chapian lui ayant remis aussitôt l'argent qui lui restait, le missionnaire se tourna vers les grands couteaux qui étaient tous là pour accueillir les voyageurs et voulut le leur rendre. Mais l'un d'eux s'avança et fit un petit discours pour dire qu'ils étaient tous enchantés que les choses eussent si bien tourné et qu'il priait le missionnaire de garder cet argent pour secourir quelque autre Indien qui se trouverait dans le besoin. Longue Plume les remercia tous de la bonté qu'ils avaient témoignée à ses enfants. Il espérait, ajouta-t-il, que ce serait bientôt son tour de prêter secours à quelqu'un dans l'embarras, car l'occasion de faire une bonne action se présente tôt ou tard à chacun de nous. Cheveux Jaunes leur annonça qu'il les accompagnait jusqu'à leur village, où il se proposait d'exercer pendant quelque temps son activité. À ce moment, le trafiquant qui était demeuré en arrière s'avança, serra la main de Longue Plume et de ses enfants et leur dit qu'il partait avec eux, lui aussi, afin de faire plus ample connaissance avec sa clientèle indienne, comme c'est le devoir de tout bon commerçant. Mais il ne dit point, il aurait préféré se faire couper en petits morceaux, que lui aussi avait aidé à l'entreprise. Et personne n'en aurait rien su si le missionnaire ne l'avait vu glisser sa quote-part dans la boîte à thé de l'école et ne l'avait dit en confidence à Longue Plume. Les deux castors, eux aussi, eurent leur part de soins et de caresses et ils consentirent même à donner le spectacle d'une séance de lutte pour la plus grande joie des Gitchi Mokoman. Tous deux se souciaient d'ailleurs fort peu qu'on les regardât ou non et j'imagine qu'ils se sentirent plutôt soulagés quand on se remit en route et qu'ils se retrouvèrent tout seuls au fond de leur panier. Longue Plume conduisait sa propre pirogue où se voyaient encore des traces de l'incendie. Chapian ramait à l'avant. Quant à Sajo, elle était considérée cette fois comme passagère. On n'eut point recours à son aide et durant la majeure partie du trajet, elle demeura le visage au-dessus du panier à considérer ses castors. Le missionnaire et le trafiquant étaient avec d'autres Indiens dans une embarcation plus vaste, une de ces grandes pirogues en écorce de bouleau appelée rabicho, dont l'avant et l'arrière plus élevés se recourbent fièrement, ce qui leur donne assez l'aspect d'un cheval fougueux ou d'un ancien galion espagnol. Ils retrouvèrent le vieux chef au premier portage où il avait campé en les attendant. Il réclama le récit de ce qui s'était passé et l'écouta attentivement en poussant des « oh », des « ah » et des « hum » profonds et gutturaux aux endroits les plus émouvants. Après avoir médité un moment, il dit à Chapian et Sajo qu'ils faisaient honneur à leur village et qu'un chant serait composé pour célébrer leurs aventures et celles de leurs petits frères. Ce chant prendrait place dans l'histoire de la tribu. Puis il regarda Chilawi et Chicani et déclara qu'eux aussi feraient dorénavant partie de la tribu. Tandis qu'il parlait, un sourire éclairait sa vieille figure ridée. Le premier qu'on y eût vu depuis longtemps, car à vrai dire c'était un vieillard plutôt sévère et taciturne. Puis debout, très droit, le visage encadré par sa longue chevelure blanche qui tombait jusqu'à ses épaules, son plaid ramené autour de sa taille, il leva la main vers le soleil et dit « Ah, Minotakia, Kaeget ke Minotakia. C'est bien, oui, c'est très bien. » Et le groupe des Indiens attentifs, longues plumes et cheveux jaunes, répétèrent en chœur après lui « Minotakia » avec beaucoup de gravité et d'émotion. Comme ils poursuivaient leur voyage vers Opipisowe, les arbres de la rive semblaient se faire signe les uns aux autres en soupirant dans le bruissement de leurs feuilles « Kaeget Minotakia, c'est bien ». Les corbeaux dans le ciel croissaient « Minotakia ». Le vent chuchotait à travers les herbes « Minotakia ». Les rapides tumultueux qui, à l'aller, avaient paru aux enfants si farouches, chantaient indéfiniment le même refrain, et les petits remous de l'eau murmuraient à Sajo à chaque coup de rame « Minotakia ». Jamais la forêt ne lui avait paru si belle, le ciel si bleu, le soleil si étincelant que pendant le voyage de retour à Opipisowe, et jamais Sajo ni Chapian, de toute leur existence, ne s'étaient sentis si heureux. Quand ils arrivèrent, Longue Plume rassembla tout le monde, et il y eut ce soir-là une grande fête dans sa cabane. Tous les gens du village étaient présents, y compris deux ou trois métis de passage. Selon leur habitude, ces derniers avaient avec eux leur violon, et l'on dansa avec entrain, tandis que les musiciens jouaient des gigs et des reels du temps passé, avec beaucoup de ritournelles et de fioritures. Il y eut aussi des quadrilles indiens, dansés par 20 personnes à la fois, et l'entrain fut bientôt à son comble. Sajo était fort occupée. Tous les garçons du village voulaient danser avec elle, et je puis vous certifier que c'était une excellente petite danseuse, car je me trouvais là et je l'ai vue de mes yeux, ainsi que Chapian, qui était tout glorieux du succès de sa sœur. Lui-même, vous le devinez, n'avait pas de mal à trouver des danseuses parmi les jeunes filles du village, et il y en avait tout un choix de fort jolies. Au dehors, on faisait du thé sans arrêt sur un grand feu. Quelques vieilles gens s'étaient réunis devant pour fumer et se raconter les histoires du vieux temps, pendant que dans l'ombre mouvante, les enfants jouaient aux quatre coins ou à cache-cache. Longue Plume passait à travers les groupes pour s'entretenir avec les uns et les autres, et sa figure, parfois sévère et souvent triste, s'embellissait ce soir-là d'un sourire, tandis qu'il souhaitait la bienvenue à ses hôtes. De temps en temps, il faisait le tour de l'assemblée avec un grand seau de thé, suivi par Sajo et Chapian, qui, entre deux danses, transportaient les tasses et servaient les invités. À un moment de la soirée, les danseurs s'arrêtèrent, et dégageant le plancher, allèrent s'asseoir le long du mur comme s'ils se préparaient quelque chose et le silence se fit parmi eux. Aussitôt, deux musiciens prirent place dans le cercle avec des tambours et commencèrent à jouer de leurs instruments. Alors entra le vieux chef Neganik Abo, c'est-à-dire l'homme qui marche en avant, coiffé d'un vaste diadème de plumes d'aigle, le visage couvert de curieux dessins multicolores, et il se mit à danser au son des tambours. Sous chacun de ses genoux était attachée une rangée de sabots de daim creux qui cliquetaient à chaque pas, et il tenait à la main une sorte de crécelle faite d'une écaille de tortue teinte en rouge et noir, la tête et le corps de la tortue servant de poignée. Tandis qu'il dansait, les petits sabots creux sonnaient comme des clochettes de cuivre, en accord avec les mouvements rapides de ses pieds. Les franges de son costume de peau de daim frémissaient, le diadème de plumes s'ouvrait en auréole et se refermait pour s'ouvrir de nouveau, tout cela au rythme des tambours qui battaient sans arrêt et qu'accompagnait le bruit sec de la crécelle d'écaille. Tout en dansant, Neganik Abo chantait une étrange mélopée dans laquelle il racontait les aventures de Sajo et de Chapian à la façon dont les guerriers d'antan auraient chanté le récit d'une bataille. Et chaque strophe se terminait par un refrain que plusieurs musiciens reprenaient en chœur. C'était le chant promis par le vieux chef. Il ferait partie désormais des légendes de la tribu, car c'était au moyen de tels chants et de peintures aux couleurs crues que les Indiens d'autrefois conservaient le souvenir des événements notables de leur nation. Mais le trafiquant, qui n'était pas au courant, crut d'abord que c'était une danse guerrière et se sentit un peu inquiet. Longue Plume dut lui expliquer que ce n'était pas une danse de guerre, mais un wabeno, qui, en dehors des incantations des sorciers, n'est employé que pour célébrer les faits héroïques. Enfin, sur un long hurlement, se termina le wabeno. Alors les violons attaquèrent de nouveau un air entraînant, les danses se reformèrent et le divertissement reprit. Danseur agile et souple, Cheveux Jaunes choisit la danseuse la plus vieille et la plus laide de l'assemblée et s'en donna à cœur joie toute la nuit. Quand l'entrain baissait, d'une manière ou d'une autre, il avait au fait de leur animer. Dans cette joyeuse cohue, le trafiquant oublia toute sa dignité et le savoir clairement qu'il pouvait s'amuser tout comme un autre. Sans faire ni une ni deux, il se mit à danser avec autant d'entrain que les plus enragés. Il se lia même d'amitié avec les castors, mais sans parvenir à se rappeler leur nom, bien que Chapian, qui n'éprouvait plus à son égard la moindre haine, fit de son mieux pour les lui apprendre. Il continua donc à les appeler Chicali, Cherokee, Chicaru et d'autres noms toujours inexacts, dont il semblait avoir une inépuisable réserve. Chilaoui et Chicani, rassurez-vous sur ce point, ne furent pas oubliés. Ils ne se laisseraient d'ailleurs jamais oublier tant qu'ils auraient une voix pour crier et quatre pattes pour courir de tous les côtés. Excités par le bruit, la musique et la joie de l'assistance, ils galopaient à travers la salle, se faufilaient entre les danseurs et, pour quêter des friandises, faisaient le tour des gens qui étaient assis. À un moment, Chilaoui s'installa au beau milieu de la salle, debout sur ses pattes de derrière, à l'endroit le plus gênant pour tout le monde, et la danse dut s'interrompre, personne ne voulant marcher sur le petit animal ou tomber sur lui. Pendant une minute ou deux, il demeura à la même place, regardant autour de lui d'un air de défi, comme pour dire « j'y suis, j'y reste », et Sajo dut finalement saisir le jeune garnement et l'emportait criant et gigotant. Pendant ce temps, Chicani, le bon apôtre, qui avait pris quelques malices pendant son séjour à la ville, avait découvert une caisse de pommes que quelqu'un avait apportée du poste. Et se rendant compte qu'avec la meilleure volonté, il ne pouvait sans s'étouffer manger plus d'une pomme à la fois, il avait entrepris de les déménager toutes une à une pour les mettre en réserve dans un coin. Quand on découvrit son manège et qu'on y mit fin, ce fut encore un beau tapage. Pour les calmer tous deux, Sajo se mit à leur donner des morceaux de panoc dans l'espoir qu'il les emporterait chez eux et se déciderait à se coucher. Mais ils bondissaient sans cesse hors de leur case pour en réclamer d'autres. À la fin, cependant, las de leur long voyage aussi bien que de tant d'agitation, ils se retirèrent tout de même dans leur appartement et s'endormirent au milieu d'une litière de banoc, leurs petits museaux pressés l'un contre l'autre, les petites mains de chacun accrochées à la fourrure de l'autre. Ils glissèrent ainsi tout doucement jusqu'au pays du sommeil, où tout leur chagrin, toute leur longue journée solitaire, furent oubliés pour toujours. Désormais, la salle de jeu et les rives du lac résonnèrent tout le jour de rires et de cris joyeux, comme au temps qui avait précédé le départ de Chicani. Son absence semblait n'avoir été qu'un mauvais rêve. La cabane, si longtemps vide et abandonnée, était de nouveau remplie de joie, et le sable mou de la rive portait l'empreinte de petits pieds qui avaient bien failli ne plus laisser de marque nulle part. Chilaoui, le fripon, toujours aussi têtu, et même un peu plus, je dois l'avouer, était redevenu l'ancien maraudeur d'antan. Il disparaissait aussi souvent que par le passé, et l'on pouvait être sûr de le retrouver en train de faire quelques sottises. Pris sur le fait, il exécutait ses contorsions saugrenues et tombait sur le dos en poussant un grand cri qui exprimait sa joie d'avoir joué un bon tour ou tout simplement le bonheur d'être insupportable. Le concours à qui grossirait le plus vite, auquel Chilaoui et Chicani s'étaient livrés au début, était maintenant terminé. Chicani s'était laissé distancer légèrement, mais définitivement, par Chilaoui. Chicani demeura donc le tout petit et garda ses façons douces et câlines. Non qu'il fût tout le temps sage, c'eût été trop demandé, mais il aimait toujours à se blottir dans les bras de sa jo, le nez bien niché dans un petit creux de son cou, qu'il affectionnait particulièrement. Dans cette position, il se pelotonnait et fermait les yeux avec de petits soupirs et des cris de bonheur, tout comme il l'avait fait en dormant sur sa petite couchette solitaire dans la cuisine du gardien. Mais maintenant, il n'était jamais seul. Il n'avait qu'à ouvrir un œil pour s'assurer que ce n'était pas un rêve. La vie avait repris pour les deux frères telle qu'elle était auparavant. Et les journées n'étaient pas trop longues pour nager, creuser le sol, barboter dans la boue, se nettoyer, se peigner, lutter, jouer à cache-cache sous le bateau. Architectes amateurs, ils s'exerçaient sur la petite hutte délabrée qui, en dépit de tous les travaux, persistait à laisser rentrer la pluie. Quand le travail et les jeux étaient terminés pour la journée, leurs petites pattes fatiguées gravissaient lentement le sentier menant du lac à la cabane, et là ils retrouvaient leurs assiettes, toujours les mêmes, remplis de riz cuit, de lait, ou même, dans les grandes occasions, de confiture. Ajoutez à cela deux bons gros morceaux de banoc qu'ils emportaient chez eux en allant se coucher. Après quoi, c'était le long sommeil sur un lit doux et chaud. L'été joyeux se passa ainsi. L'automne arriva et avec lui la chute des feuilles, les jours silencieux. Le temps était venu de reporter Chilaoui et Chicani à leur véritable famille, car il fallait maintenant les laisser reprendre l'existence pour laquelle ils étaient faits et suivre la loi de tous les castors. En hiver, il deviendrait impossible de leur fournir assez d'eau pour leurs besoins et l'on ne pourrait pas non plus les transporter d'un lieu à un autre comme en été. Longue Plume appela un jour ses enfants. Il leur expliqua que les castors, en grandissant, car les castors grandissent lentement et mettent 3 ans à atteindre leur plein développement, se lasseraient bientôt d'un genre de vie si anormal et qu'ils devaient être rendus à leur tribu pour mener l'existence à laquelle le grand esprit de la solitude les avait destinés. Les enfants s'en doutaient déjà depuis quelque temps, bien qu'ils n'en eussent jamais parlé ensemble. À mesure que le jour du départ approchait, Sajo devint plus pensive et plus silencieuse. Elle passait de longues heures avec ses petits compagnons de jeu, dont elle serait bientôt séparée, et qui, gai et espiègle comme toujours, jouait avec elle sans une pensée pour l'avenir. Sajot les aimait tant qu'elle ne voulait pas penser au sentiment de solitude qu'elle éprouverait lorsqu'ils ne seraient plus là, mais au plaisir qu'ils auraient eux-mêmes à retrouver leurs parents. « Comment pourrais-je bien être triste ?» se demandait-elle tout haut d'une petite voix qui tremblait un peu. « Je suis heureuse, très heureuse. » La question était réglée. « Oui, Sajot, tu étais heureuse. Heureuse comme le sont toujours les âmes généreuses qui savent s'oublier. » Aussi, un matin d'octobre, le mois de la chute des feuilles, les collines ayant revêtu leur manteau d'automne brun, doré et cramoisi, Chilaoui et Chicani, gros petits et tout petits, prirent congé de leur petite chambre et de la cabane où ils avaient vécu l'heureux temps de leur petite enfance. Ils quittèrent la petite maison branlante qu'ils avaient construite, la salle de jeu, le sentier du lac et tous les points de la rive où ils avaient coutume d'aborder. Ils laissèrent tout cela derrière eux, prirent place une fois de plus dans le vieux panier d'écorce de bouleau qui leur avait déjà tant servi et s'embarquèrent pour le dernier et le plus important de leur grand voyage. Et tandis qu'ils s'installaient sur leur litière d'herbe parfumée, ils étaient loin de se douter, les petits castors, de ce qui les attendait au bout de ce voyage. Fin de la première piste de la 7e cassette. Page 236, Sajot et ses castors, par Gray Hall.